Je ferai mon propre site. Peut-être que ça marchera, peut-être que non. Mais ce sera à moi.
Toute passion peut se monétiser sur le web. Ça, c'est la réalité économique dans laquelle on est actuellement et c'est plutôt cool.
Je n'ai jamais rien connu de tel dans ma vie, ce truc énorme, magnifique, passionnant que vous avez créé. N'oubliez pas qui a fait ça.
Je ne suis pas venu pour faire des sandwichs, je suis venu pour faire des affaires.
Fais-moi donner des cours de PDG.
Là, le fait d'avoir vraiment un programme en ligne, enfin quelque chose de passif, quelque chose qu'on a créé toute pièce, là, j'ai vraiment l'impression maintenant de m'asseoir vraiment en tant qu'entrepreneur et plus en tant que freelance. Et ça, c'est satisfaisant.
Je pourrais même gagner ma vie avec ça pour toujours. Je veux dire, tout ça depuis mon confortable petit appartement pourri. Je devrais plus jamais me trouver un autre boulot.
Boum ! Dollar, dollar, bill, yeah !
Hello, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode comme chaque semaine. Et tout d'abord, je voulais vous dire un énorme merci suite au retour que j'ai reçu par rapport à l'épisode dernier où je vous ai expliqué tout le scandale autour de l'influenceuse Chiara Ferragni. Chiara d'ailleurs qui n'a plus rien posté depuis une semaine à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode. Il y a encore des rebondissements et nous en parlerons à nouveau dans un prochain épisode. Donc je vois que ce format vraiment vous parler des success stories, mais aussi parfois des success stories qui se cassent. C'est un format qui vous plaît. C'est vrai que j'adorais pouvoir le faire sur YouTube. J'adore raconter des histoires. J'adore raconter comme ça des histoires de succès. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué en termes de timing de faire quelque chose de qualitatif pour YouTube, en termes de montage, en termes d'enregistrement, etc. Donc, en attendant, c'est sur le podcast. Ça me fait super plaisir de pouvoir partager ces différents sujets avec vous. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce type de sujet se retrouve à nouveau en vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu plus business et un petit peu plus business de solopreneur. On va revenir un petit peu au business qu'on peut faire nous-mêmes, seuls, de chez nous. Comment est-ce qu'on peut gagner sa vie sur le web? Alors, je vous avais déjà donné quelques informations à ce sujet au début d'année. Aujourd'hui, on va reprendre différents business models et on va les analyser par rapport au potentiel de liberté. Alors, pourquoi j'ai voulu amener cet épisode par rapport à cet objectif de liberté? C'est tout simplement parce que pour moi, c'est une de mes plus grandes valeurs. C'est pas quelque chose que j'ai conscientisé rapidement étant jeune. C'est même pas quelque chose que je comprenais quand je me suis lancée à mon compte il y a 8 ans. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure. Et c'est le fait de tester différents business models qui m'a permis de comprendre que ce besoin de liberté, et vous allez voir, il y a la liberté dans plein de catégories différentes, c'est vraiment pour moi la chose qui me drive en termes de business. Et donc, j'avais envie de revenir sur tous les business models possibles sur le web et les analyser par rapport au capital liberté. Est-ce qu'au final, est-ce que être solopreneur sur le web, c'est être libre réellement? On va parler de tout ça, on va analyser tout ça. J'ai prévu, j'ai mes notes, j'ai mes différents points et puis on terminera par le classement final pour voir, selon moi, quel est le business model qui permet d'être le plus libre réellement aujourd'hui. Alors, petit disclaimer, petite information avant de commencer. Déjà, très 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 important, il n'y a pas un bon business model parfait pour tout le monde. Nous sommes tous des personnes différentes, nous avons tous des besoins et des valeurs différentes. Ici, je les analyse par rapport à la liberté et en plus par rapport à ma manière de voir la liberté. Je vous explique tout de suite après ce que c'est selon moi. Mais globalement, ça reste mon avis, j'essaye d'être impartial, vous allez voir dans mes analyses, dans ce que je dis. Mais globalement, vous avez le droit d'être totalement en désaccord avec mon classement final. Et si vous kiffez ce que vous faites au quotidien, même si ça va complètement à l'encontre de ce que moi je trouve être la liberté, c'est très bien, si vous êtes heureux, c'est le but, hein. C'est vraiment ça, donc je ne vais jamais vous imposer et vous dire ça c'est la manière d'être heureux, ça c'est la manière d'être libre en business, ça c'est la manière de gagner de l'argent. Voilà, le but de cet épisode, c'est de prendre conscience que tout n'est pas forcément synonyme de liberté, être à son compte n'est pas spécialement synonyme de liberté absolue, mais c'est également apprendre avec avec des pincettes, ça reste mon avis également. Et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Et il y a certainement des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, étant donné que nous sommes tous différents. Mais donc, sachez que je ne veux rien imposer. Et en aucun cas, je ne souhaite imposer une manière de faire. C'est hyper, hyper important. Il faut faire ce qui a du sens pour vous et ce qui vibre pour vous. Alors également, petit disclaimer, il se peut que dans mes explications, étant donné que en fait j'ai testé plein de choses, moi ça fait plus de 8 ans que je suis à mon compte, donc j'ai eu l'occasion de tester plein de business models, et il se peut que dans mes explications, il y a des moments où je vous dise ça je n'aimais pas, ça je trouvais qu'au final c'était chiant. Sachez qu'en aucun cas ce n'est une critique par rapport aux clients avec qui je bossais à cette époque. Ça fait plus de 8 ans que je gagne ma vie en faisant ce que j'aime au final, hein, même s'il y a eu des choses que j'ai moins aimées, mais globalement ça fait 8 ans que je suis à mon compte et que je gagne ma vie en faisant ce que j'aime chaque jour. Donc globalement j'ai énormément de gratitude pour ça. Donc bien sûr le but n'est pas de critiquer, le but n'est pas d'aller un petit peu cracher dans la soupe par rapport aux opportunités que j'ai eues auparavant, loin, loin, loin de là. C'est juste un discours honnête. Le recul après plusieurs années se rend compte qu'il y a des choses qu'on aime moins et des choses qu'on aime plus. Mais donc sachez qu'en aucun cas c'est une critique, je tiens à le préciser. Et également dernier point, sachez que je suis restée focus sur les business qu'on peut gérer seul, vraiment les business de solopreneur. Donc typiquement tout ce qui est business model où on a d'office besoin d'une équipe, comme par exemple le modèle d'agence ou des modèles dans tout ce qui est coaching, comme des offres mastermind haut de gamme, etc. Tout ça, je n'ai pas mis dans cet épisode. De un, parce qu'il fallait faire un choix, et si je devais analyser tous les business models et même quasi tous les métiers possibles sur le web, cet épisode aurait duré une semaine. Et également, j'ai préféré me référer à ce que j'aime, à savoir le business solopreneur à 100%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ce qui se rapproche le plus de l'objectif liberté. Je pars du principe, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais que dès qu'on commence à scaler en termes d'équipe, on va au final avoir moins de liberté. Alors, je ne parle pas de faire parfois appel à des prestataires de services. Par exemple, vous avez besoin d'un nouveau site internet, vous contactez un web designer freelance, vous collaborez ensemble là-dessus, votre site internet est livré, et voilà. Pour moi, ça, c'est pas avoir une équipe, entre guillemets. Pour moi, avoir une équipe, c'est avoir des personnes qui bossent pour vous toute la semaine, alors peut-être pas à temps complet, mais en tout cas, vous avez des personnes qui, tout au long de l'année, sont fixes et font un travail directement pour votre business. Et à ce moment-là, on est obligé de prendre une casquette de manager, on est obligé au final d'avoir d'autres tâches. Et au final, on a un besoin d'être là pour son équipe également. Faut arrêter de croire à toutes les personnes qui vous disent « Ah oui, mais délègue, comme ça tu seras libre. » Non, non, c'est pas vrai du tout. Et au plus vous allez déléguer, au plus vous allez vous retrouver à avoir des horaires qui ressemblent un petit peu à des horaires de salariat du lundi au vendredi de 9h à 18h. Donc, réellement, tout ça, j'ai mis de côté parce que pour moi, on se sépare totalement de l'idée le solopreneur sur le web qui bosse sur son ordi et qui peut aménager son temps comme on veut, on est dans une autre dynamique. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir ce type de business, je dis juste que voilà, on sort de l'image le solopreneur, comme je disais, libre sur le web. Alors, parlons de liberté. J'en ai déjà beaucoup parlé en introduction cet épisode. Moi, je vais vous expliquer la définition de ma liberté et comment celle-ci s'est construite au fur et à mesure. Quand j'étais salariée et que je me suis lancée à mon compte, j'avais l'impression d'être méga, méga, méga libre. Pourquoi ? Parce que déjà, j'étais pas obligée d'aller au travail du lundi au vendredi je devais pas faire semblant de bosser quand j'avais fini mon boulot depuis le mercredi et qu'on avait rien à me donner et que j'étais obligée d'être là pour être là et être là en présentiel. Donc, globalement, ça a déjà changé totalement la donne d'être à mon compte. Donc, à l'époque, j'étais vraiment purement indépendante, j'étais freelance. Je me suis lancée dans tout ce qui est communication digitale, community management en freelance, etc. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas tant cette liberté que je voulais. Pourquoi ? Parce qu'au final, je bossais pour les autres. Si vous êtes graphiste freelance, vous allez bosser toujours pour le business d'autres personnes. Vous allez faire le logo d'autres business ou vous allez faire peut-être de la création visuelle toute l'année pour certains business. Mais globalement, au final, oui, vous êtes à votre compte, mais c'est un petit peu comme un salarié qui bosse dans une agence créa et qui va faire du graphisme pour d'autres personnes, eh ben ici c'est pareil, c'est pas vraiment votre business à vous. Certes, vous avez le statut de freelance, vous êtes indépendant, administrativement vous vous gérez de manière indépendante, mais vous avez pas votre truc à vous. On va en reparler tout de suite. Et dans un premier temps, je me suis vraiment dit, bah ok, c'est pas grave, c'est normal, de toute façon, il faut bien à chaque fois que j'ai des clients qui me disent quoi faire. Et c'est au moment où j'ai compris qu'il y avait tout ce truc des produits digitaux, des cours en ligne, que j'ai compris que je pouvais vraiment créer mon propre business à moi et ne plus avoir de compte à rendre, entre guillemets, à des clients qui me payaient pour faire des tâches pour eux. Et pour moi, j'ai vraiment cette liberté qui est totale désormais. Après, je ne dis pas du tout que mon métier est le métier le plus idéal du monde et que ça convient à tout le monde, loin, loin de là. Et d'ailleurs, après cette longue introduction, je crois qu'il est temps de passer à notre première catégorie. Il y en a 7. Alors, première catégorie, la prestation de service. Donc, ça va justement être tous les métiers freelance comme community manager freelance, rédacteur web freelance, développeur web freelance, etc., etc. Attention, en fait, il y a plein de métiers en prestation de service qu'on peut faire en freelance. Je retire déjà tout ce qui est métier où on est obligé d'être en présentiel quelque part. Par exemple, un photographe, certes, on est à son compte. Certes, on va certainement utiliser Instagram pour se faire connaître. Mais on n'est pas sur moi pour un métier du web. Parce qu'au bout d'un moment, vos photos, vous devez aller les faire dans la vraie vie. Si vous êtes photographe de mariage, vous êtes obligé de vous déplacer le week-end aux différents mariages pour faire les photos. Alors, vous avez le droit d'être très heureux comme ça. Pour moi, je sépare directement du solopreneur du web parce qu'au final, c'est pas vraiment un métier du web. Également, dans tout ce qui est prestation de service, je supprime tout ce qui est freelancing déguisé en intérim plus, voire même salariat sous couverture de freelancing, c'est-à-dire les boîtes qui engagent des freelance sur des missions long terme, 3 mois, 6 mois, voire même parfois 1 an, mais qui leur demandent de venir travailler du lundi au vendredi de 9h à 17h. Ça, il y en a énormément. Moi, je me souviens quand justement je m'étais lancée à mon compte, je m'étais inscrite un petit peu dans des agences qui plaçaient des freelance, et c'était l'horreur les missions qu'on me proposait. On me disait, ok, tu vas aller bosser à 1 heure de route, du lundi au vendredi de 9h à 17h, et en fait c'est pour remplacer souvent des salariés qui sont malades sur le long terme ou des congés maternité, etc., etc. Donc c'est de l'intérim plus, on est loin de l'image du community manager freelance qui bosse de Bali pour ses 4-5 clients, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, je le retire direct. On va vraiment garder en tête tous les freelance du web qui bossent vraiment de manière indépendante, qui trouvent leurs propres clients et qui travaillent pour leurs propres clients. Donc, comme je disais, par exemple, community manager freelance, ce qui a été mon cas quand je me suis lancée. Donc, moi, j'ai vraiment mixé. J'avais différents clients que j'avais sur l'année. J'en ai même certains qui m'ont fait confiance sur plusieurs années. Donc, ça, c'était vraiment trop, trop chouette. Et j'avais parfois des missions un petit peu plus ponctuelles où certaines personnes allaient me demander pendant 2-3 mois de bosser sur leur campagne emailing et puis je leur redonnais la main. Donc voilà, il y avait toujours ce mix entre clients que j'avais toute l'année sur du long terme et parfois des missions un petit peu plus ponctuelles, ou même parfois des gens qui allaient me demander de créer un site internet ou un template de newsletter. Et voilà, ça c'est plutôt du one shot. Donc voilà par rapport à la prestation de service. Alors, je vais toujours analyser les différents business models sur 4 points par rapport à la liberté. Tout d'abord, la liberté géographique. Ensuite, la liberté au niveau du temps. La liberté au niveau de la créativité. Et ensuite, on parlera alors de liberté financière. C'est plus du potentiel de stabilité financière, mais pour moi c'est important parce que c'est bien d'être libre, mais si on n'a pas d'argent, ça va être un petit peu compliqué de profiter de sa liberté. Donc il y aura toujours ce 4e point par rapport à l'argent. Alors, premier point pour moi, pour tout ce qui est freelance, prestation, service du web. Au niveau liberté géographique, pour moi c'est le gros avantage, et même au niveau de liberté du temps, parce qu'on peut vraiment aménager son temps de travail comme on le souhaite. Et moi, je me souviens très bien quand j'ai commencé à travailler sur mes cours en ligne et sur ma propre visibilité sur le web. J'avais donc mes clients, et typiquement pour mes clients en community management, je travaillais semaine après semaine. Donc tous les, par exemple, mercredis, je leur envoyais les posts pour la semaine suivante et ils avaient 48 heures pour valider. Et s'il y avait un truc à modifier, voilà, je le faisais en fin de semaine pour que tout soit programmé pour le lundi suivant. Mais globalement, c'était moi qui décidais de comment j'aménageais mon temps de travail. Si j'avais envie de bosser le dimanche soir sur les postes de mes clients, je bossais le dimanche soir. Si j'avais envie de le faire le lundi après-midi, je le faisais le lundi après-midi. Et c'est ça qui m'a permis de vraiment avoir le temps de développer toute la partie cours en ligne. C'est qu'en fait, j'avais vraiment aménagé mon horaire comme je le voulais. Je faisais lundi, mardi, mercredi le travail pour mes clients et jeudi, vendredi, je bossais pour mon propre nouveau business à moi. Et ça, c'est vraiment pour moi un avantage qu'on a dans tout ce qui est prestations de services, c'est cet aménagement plus qu'on peut avoir au niveau de l'horaire et au niveau de la géographie. Je me souviens quand j'ai fait mes premiers voyages aux États-Unis, j'étais encore freelance à ce moment-là, et concrètement, je disais à mes clients, ah ben voilà, je pars 2 semaines et demie aux États-Unis, je vais bosser sur place, vous étonnez pas si vous recevez des messages à 3h du matin, c'est juste le décalage horaire, mais je reste dispo parce qu'effectivement, je bossais sur place, je bossais le matin, puis je profitais de l'après-midi. Et donc, ça n'avait aucun impact, en fait, sur mon travail au niveau de mes clients. Mes clients s'en foutaient complètement que je sois à Bruxelles, à Los Angeles ou sur une plage en Thaïlande. Tant que le boulot était bien fait et était remis en temps et en heure, c'était très bien. Et donc, quand on est freelance comme ça avec ces métiers du web, on a vraiment cette liberté à ce niveau-là, au niveau temporel, au niveau géographique. Et ça marche, je pense, avec tous les métiers. Si vous êtes web designer freelance, imaginons, vous avez un site internet à rentre pour le 25 avril, ben c'est vous qui aménagez votre temps de travail jusqu'au 25 avril. Si vous avez envie de cravacher pendant une semaine et bosser nuit et jour pour après être tranquille, ben c'est très bien. Si vous avez envie de bosser 2-3 heures par jour pour être plus chill et avoir vos après-midi de libre, ben c'est très bien aussi. Au final, votre client, il s'en fout de comment vous travaillez, vous. Ce qu'il veut, c'est avoir son joli site internet le 25 avril. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros avantage. Ce qui va être moins avantageux, je trouve, c'est en termes de créativité. Ben, au final, on se retrouve à travailler pour les clients et on doit leur rendre des comptes. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'ennuyait en termes de créativité. Pas tellement dans le fait de devoir rendre des comptes, parce qu'après, je dois dire que moi, j'étais au tout début de ces métiers comme l'IT management et tout. Et à l'époque, franchement, les gens étaient contents juste quand il y avait des choses qui étaient publiées sur leur page Facebook. On n'était pas encore sur des analyses de conversion comme on ferait aujourd'hui. Donc pour le coup, moi, j'étais tombée à une époque assez chill. Bon, en même temps, nous-mêmes, en tant que marketeurs, on n'avait pas les mêmes connaissances qu'on avait il y a 8 ans. Forcément, c'est des métiers qui ont évolué. Mais après, c'est vrai que j'étais quand même... Je devais quand même tout faire valider par le client avant de le poster. Et puis parfois, j'étais pas maître du planning. Si le client avait des actions, lui, dans son marketing, s'il y a des choses sur lesquelles il voulait communiquer, il me disait non, le choix de poste rigolo que t'as prévu, tu le supprimes parce qu'on fait nos portes ouvertes et focus sur les portes ouvertes. Bon, ben voilà. Donc on se retrouve parfois à pas toujours avoir la créativité qu'on veut. Pareil, je reprends l'exemple du web designer ou même du graphiste. Ben au bout d'un moment, le client va faire la demande par rapport à ce qu'il veut. Donc si imaginons vous êtes dans une période hyper créative, vous avez envie de designer des choses avec énormément de couleurs, des choses assez pop, et vous avez que des clients qui viennent pour vous, qui vous demandent du noir et blanc très édito, ben vous allez vous retrouver à designer du noir et blanc très édito. Certes, vous faites ce que vous aimez, vous créez des sites internet, mais vous n'allez peut-être pas créer vraiment ce que vous avez envie de créer au moment où vous avez envie de le créer. Donc je trouve que moi, au niveau créativité, on est parfois un petit peu bridé. Donc voilà un petit peu pour les avantages et les désavantages de ce business model. Alors on va reprendre les différents points et mettre une note sur 10. Alors pour ce qui est de la liberté géographique, pour la prestation de service, je mets 10 sur 10. Pour moi, c'est vraiment un métier qu'on peut faire de partout dans le monde. À partir du moment où vous êtes freelance sur le web, vous pouvez bosser de n'importe où tant que vous avez un ordinateur, une bonne connexion internet, c'est ok. Et maintenant, avec les satellites, je sais plus comment s'appelle le truc d'Elon Musk là, portable là, qui nous donne internet partout. Il y a même des freelance maintenant qui bossent sur des catamarans au milieu de la mer. Donc vraiment, liberté géographique, 10 sur 10. Pour moi, il n'y a pas de... Je vois pas à quel moment un graphiste ne pourrait pas bosser de n'importe où dans le monde, par exemple. Alors, au niveau de la liberté du temps. Alors, comme je disais, on a une très grosse liberté au niveau de l'aménagement de ses propres horaires. À partir du moment, comme je disais, vous êtes community manager et que vous devez poster toutes les semaines sur les réseaux de vos clients, ben, vous décidez quand vous travaillez sur cette tâche. Cependant, c'est pas pour autant qu'on est à 10 sur 10 sur la liberté au niveau du temps pour le prestataire de service. Pourquoi ? Parce qu'on va être bridé en termes de temps, parce qu'au bout d'un moment, on reste dans un métier où, alors je déteste cette expression, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, on échange son temps contre de l'argent. Le community manager, au bout d'un moment, il peut pas s'occuper de 500 comptes Instagram chaque mois. C'est pas possible. Il a pas le temps, on a que 24 heures dans une journée. Si on veut faire de la qualité, au bout d'un moment, on va être limité en termes d'heures de travail. Et surtout, à un moment, il va falloir faire le travail. Ça peut paraître très bête, c'est très logique ce que je suis en train de dire. Et vous allez me dire, ok, mais Valentine, il n'existe aucun métier où on ne peut rien faire et avoir l'argent qui tombe. On va en parler après. Mais globalement, le prestataire de service, il n'est pas libre au niveau du temps. Un prestataire de service qui veut gagner sa vie, il doit quand même bosser tout le temps. Alors, pas tout le temps, pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il y a quand même un certain travail à délivrer chaque semaine, chaque mois. Et globalement, moi, je connais aucun prestataire de service qui gagne sa vie correctement en bossant une heure par jour. Ça n'existe pas. Donc, on n'a pas tellement cette liberté en termes de temps. Donc, moi, je vais mettre 5 sur 10. En termes de créativité, on en a parlé, hein, le fait que, ben, au final, on crée ce que veut le client. Donc, certes, on fait le métier qu'on aime, mais on va pas forcément faire de la manière qu'on a envie de faire. Donc, je vais mettre un 6 sur 10. Et alors, au niveau de la liberté financière, entre guillemets, j'ai mis également 6 sur 10. Pourquoi ? Ben parce que justement, on a ce plafond de verre qui fait qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Au bout d'un moment, on va gagner en expérience, on peut augmenter ses prix, mais au bout d'un moment, ça coince. On ne peut pas demander 10 000 euros par mois pour poster sur Instagram, par exemple. Donc, voilà pour les différents points. Donc, au niveau géographique, 10 sur 10. Le temps, 5 sur 10. La créativité, 6 sur 10. Et le financier, on est à 6 sur 10. Ce qui nous fait une très belle moyenne de 6,75 sur 10. 6,75 sur 10 pour la France. Et globalement, bah, très très belle moyenne. Hein. On est presque à 7 sur 10. Donc, je trouve qu'en termes de liberté, on est vraiment pas mal. Et moi, je vous avoue, si je devais arrêter tout ce qui est business en ligne, cours en ligne, comme je le fais, je repartirai vers la prestation de service parce que c'est vraiment pour moi un des business models où au final on est le plus libre. La seule chose au final, c'est qu'on est obligé de vraiment être tout le temps dans la production pour nos clients pour gagner notre vie. Mais si on aime ce qu'on fait, pour moi, c'est pas grave. Et au bout d'un moment, quand on fait bien son travail, on peut quand même très bien gagner sa vie en tant que freelance. Surtout qu'on n'a pas énormément de, frais quand on bosse seul sur le web. On a cette liberté géographique, on a cette liberté quand même au niveau de l'aménagement des horaires. Donc vraiment, pour moi, c'est un go et on manque énormément de bons prestataires de services actuellement. Ça manque de bons community managers, ça manque de bons copywriters. Donc, je ne fais pas du tout partie de la team qui va vous dire ne deviens pas freelance. Si c'est ce que vous avez envie de faire, let's go. On est clairement pour moi sur un métier qui amène une belle liberté. Alors, deuxième business model, on va parler du coaching. Alors, pour moi, coaching, on va le reprendre comme étant le bon coaching pur et dur, c'est-à-dire vous avez des clients et vous avez des rendez-vous avec eux chaque semaine ou toutes les deux semaines ou tous les mois. Et à ce moment-là, vous avez des séances de coaching qui vont durer 30 minutes, 1 heure, 2 heures en fonction de votre manière de bosser. On est donc directement, on le voit, sur un business model où vous êtes obligé de bosser à certaines heures données. Parce que ça va être un petit peu compliqué de dire à vos clients notre prochain Zoom, ce sera à 3 heures du mat parce qu'en fait, je serai à Bali et donc, j'ai pas envie, d'être jetlagué. Donc, tu te débrouilles, tu te lèves à 3 heures du mat si tu veux ta séance de coaching. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et surtout, une fois que l'activité démarre, on peut se retrouver à avoir ces journées qui sont remplies de rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a plein de clients et c'est top, mais on enchaîne les rendez-vous de coaching. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette fameuse mode chez les coachs depuis plusieurs années qui est de remplacer vraiment les séances de coaching en one-to-one par des programmes de groupe. On y reviendra après. Mais donc là, je parle vraiment du coaching one-to-one, le pur coaching. Alors, on l'a dit, hein, des avantages au niveau du temps. Pour moi, on n'a aucune liberté au niveau du temps. Parce que une fois que l'activité d'école, on va se retrouver à enchaîner les calls de coaching avec nos clients. Par contre, on a quand même une certaine liberté géographique. Si vous n'êtes pas dérangé par le décalage horaire et que ça vous dérange pas d'éventuellement vous lever à 4 heures du mat pour être sur le créneau de vos clients ou de travailler tard le soir, ben vous pouvez totalement faire ce métier de n'importe où dans le monde. Encore une fois, vous avez juste besoin de votre ordinateur et d'Internet pour vous connecter à vos clients. Donc, globalement, liberté géographique, un bon 10 sur 10 aussi. Voilà, c'est jusque-là, on va avoir au niveau de la liberté du temps, je mets tout de suite 2 sur 10. C'est une note qui est vraiment très basse, mais c'est la réalité. Et quand moi, je discute avec des coachs qui se retrouvent à être épuisés et j'ai dans Selfmade des coachs qui ont rejoint les programmes pour justement changer de business model parce qu'elles étaient épuisées, parce qu'elles étaient... en call de 8h du matin jusqu'à 20h à enchaîner les rendez-vous de coaching et c'est épuisant, on peut pas faire un seul break. Si un jour on se sent pas bien ou si un jour on a tout simplement envie de faire autre chose, un petit peu déconnecté, ben on n'a pas le droit parce qu'on a les rendez-vous avec les clients qui sont fixés et c'est un petit peu compliqué de décaler tout le monde. Et encore une fois, voilà, si vous voulez voyager, ça va être un petit peu compliqué parfois, peut-être même au niveau des horaires. Donc liberté au niveau du temps, on est à 2 sur 10. Pour moi, c'est pas du tout un business model qui permet d'être libre au niveau du temps, au niveau des horaires. Alors, au niveau de la liberté au niveau créatif, bah, j'ai mis un petit 4 sur 10 parce que bah, déjà, je trouve pas que ce soit un métier qui soit très 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 créatif. Et encore une fois, bah, vous allez au final, je vais pas dire faire ce que veulent vos clients, mais en tout cas, vous allez travailler par rapport à vos clients, par rapport à leurs besoins. Bon après, est-ce que le métier de coach a pour vocation d'être créatif et de se déployer en tant que créatif? Je ne pense pas, mais globalement, pour moi, par rapport à ce que je vous disais, cette liberté de créativité, de pouvoir bosser sur ce qu'on veut au moment où on a envie, le métier de coaching, j'y retrouve, voilà, je m'y retrouve pas trop. Donc, j'ai mis un 4 sur 10, mais c'est pas un 4 sur 10 qui est négatif, hein, vraiment. Je suis pas en train de dire que le métier de coach n'est pas bien, c'est juste que pour moi, ça ne permet pas de déployer sa créativité. Mais je ne le dis pas de manière négative, loin de là, c'est pas du tout une critique. Et en termes de liberté / rentabilité financière, j'ai mis 6 sur 10, comme pour le freelance. Globalement, si on fait bien son taf, on va avoir des clients, on peut très bien gagner sa vie. On peut franchement, en tant que coach... Alors, j'aime pas mettre des objectifs de chiffre d'affaires comme ça parce que ça veut pas dire grand-chose. Mais un coach peut vraiment gagner un bon salaire en termes au bout d'un moment, s'il fait bien son taf, qu'il a ses clients, etc. En même temps, si on passe ses journées à bosser, à faire des rendez-vous de coaching, ce serait quand même sympa de gagner sa vie à la fin. Mais on va avoir encore une fois ce plafond de verre. On ne peut pas être 24 heures sur 24, encore une fois, à s'occuper de ses clients, à être en direct sur Zoom, à faire nos rendez-vous de coaching. Donc, 6 sur 10 pour le financier, parce qu'il y a quand même ce petit plafond de verre. Et donc, quand je fais la moyenne de tout ça, on arrive à 5,5 sur 10. Donc, on est juste au-dessus de la moyenne. Ça reste une certaine liberté parce qu'on est quand même à son compte. Mais il y a quand même, et c'est ça qui fait chuter la moyenne, c'est le temps au final. C'est le fait qu'on va être enchaîné au rendez-vous et on va être un petit peu esclave de tout ça. Il y a des personnes que ça dérange pas et il y a des personnes que ça finit par épuiser. Donc, c'est important de s'en rendre compte. Alors, troisième business model. Je l'ai séparé de coaching parce que pour moi, en fait, c'est des métiers différents. Mais au final, on est sur exactement les mêmes notes et les mêmes points. C'est le consulting. Alors, pourquoi est-ce que je différencie bien le coaching du consulting? Pour moi, le coaching, le coach, c'est quelqu'un qui va vous poser des questions, qui va vraiment aller dans l'introspection pour que vous puissiez trouver les réponses à vos problèmes et que vous puissiez passer à l'action. Le consultant, c'est complètement différent. Il va aller regarder votre business... Et il va dire, ben ça va pas, là tu devrais faire ça, etc., etc. On est donc sur du conseil, mais au final, en termes de business, ça fonctionne de la même manière qu'un coach, un consultant. Il va également être beaucoup, beaucoup, beaucoup en rendez-vous avec ses clients pour expliquer ce qu'il doit faire, pour donner son avis. Voilà. Donc, globalement, pour moi, le consulting, on a cette liberté géographique, encore une fois. On peut faire ça n'importe où dans le monde. Mais on a ce problème au niveau du temps qui fait que ce n'est pas tellement un métier où on va devenir 100% libre de ses journées. On peut pas se dire le mercredi matin, ah ben tiens, il fait beau, je vais en profiter pour aller me promener, je vais aller réfléchir, je vais aller écouter un podcast. Ben non, parce que peut-être qu'on a rendez-vous à 9h30 avec un client et qu'on doit parler avec lui de sa stratégie d'emailing, par exemple, et c'est un petit peu compliqué de dire à son client à 9h, écoute, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, démerde-toi. Donc voilà. Donc, on est sur totalement la même manière de fonctionner. On est donc sur les mêmes points et on arrive à la même moyenne, forcément, de 5,5 sur 10. Donc, encore une fois, on est sur un métier où on va quand même être libre, hein, on va être plus libre que si on était salarié, mais on n'est pas non plus, je trouve, pour moi, au summum de la liberté. Alors, business numéro 4, là on va un petit peu changer parce qu'on va parler de tout ce qui est vente de produits physiques, de l'e-commerce donc, que ce soit des produits que vous allez créer vous-même. Imaginons si vous êtes un créateur, par exemple, je ne sais pas, vous faites de la poterie et vous avez votre e-shop avec vos différentes créations, ou alors vous allez directement vous sourcer chez des producteurs, par exemple, si vous voulez créer un e-shop de bijoux, mais vous pouvez aller acheter directement des bijoux chez des producteurs, chez des artisans, etc., et les mettre sur votre e-shop. Bien sûr, je mets de côté le dropshipping où il n'y a pas la gestion du stock. Ben oui, là, ça forcément, ça permet d'être plus libre si on ne doit pas s'occuper de la marchandise. Mais globalement, c'est quand même très souvent de la merde. Donc, on va mettre ça de côté. On va parler vraiment de gérer un e-shop. Et on va vraiment l'imaginer de la manière artisanale où on a une pièce chez soi avec les caisses en carton, avec le matériel, avec l'étiqueteuse. Et dès qu'une commande est faite, on s'occupe soi-même de faire la commande et d'aller la poster. On va vraiment passer, comme je le disais, on va rester vraiment sur le côté solopreneur. Alors, ce type de business model, pour moi, on peut être déjà beaucoup plus créatif. Imaginons si vous décidez d'avoir un e-shop de bijoux, bah déjà, vous allez décider, vous, de ce que vous voulez faire. Par exemple, un e-shop de bijoux, donc niveau créativité, on est pas mal. Et surtout, bah, vous allez pouvoir choisir les produits que vous allez pouvoir mettre en avant. Si vous allez chez différents producteurs, bah, vous allez pouvoir aller chercher vous-même les différents éléments. Vous allez vraiment avoir cette créativité au niveau des choix. Pour moi, c'est assez important. Bon, cependant, on reste quand même, on doit quand même répondre aux besoins du public. Si vous avez des goûts complètement exubérants et qu'il n'y a pas grand monde qui partage les mêmes goûts que vous, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais globalement, au bout d'un moment, si on veut vendre et être rentable, il faut quand même s'adresser à un certain public, avoir quand même une petite part de marché. Et donc, il faut quand même répondre aux besoins du public. On est d'accord, mais on a quand même cette créativité qui est là. Et pour moi, le point négatif dans ce type de business, que pour le coup, je n'ai jamais testé, mais j'arrive quand même à me rendre compte de ce que c'est, ben, c'est tout simplement la liberté géographique, elle est complètement nulle, parce que si on s'occupe tout au début de zéro, eh ben, il va falloir être sur place et tout faire soi-même. Il va falloir soi-même faire les colis, il va falloir soi-même envoyer les commandes. Et si on est, par exemple, une semaine en vacances, il va falloir trouver une solution pour que les commandes soient envoyées à ce moment-là. Donc, soit vous trouvez quelqu'un de confiance dans votre entourage qui peut le faire, ou vous engagez un étudiant, ou je ne sais quoi, ou tout simplement, vous mettez pendant une semaine les commandes off en disant, ben voilà, pendant une semaine, il n'y a pas parce que je pars en vacances. Vous allez me dire, mais oui, mais on peut déléguer à des sociétés de logistique qui s'occupent de ça. Oui, je suis d'accord, mais désolé de vous le dire, vous ne vous appelez pas encore encore Zalando. Et toutes les personnes maintenant, les entrepreneurs qui ont des sites e-commerce qui cartonnent ou des créatrices de mode qui ont maintenant des grosses marques qui cartonnent et qui certes ne s'occupent plus de la logistique elles-mêmes dans leur salon, même c'est complètement délégué à des prestataires externes, je peux vous dire que pendant des années, elles ont empaqueté leurs vêtements dans leur salon le soir quand il y avait des nouveaux lancements de collections. Donc, il faut bien se rendre compte de ça et il faut passer par ces différentes étapes avant d'arriver à l'énorme succès. Et si vous n'avez pas envie de faire ça pendant 2-3 ans, et ben vous savez que ce n'est pas un business pour vous. Donc, vraiment, ça, c'est important de s'en rendre compte. Et d'ailleurs, moi, je le vois parce que j'adore suivre des créatrices de contenu qui lancent de plus en plus leur marque. Et il y en a qui font vraiment tout de A à Z elles-mêmes, qui vont dans les ateliers réceptionner les vêtements qui sont terminés. Elles lancent la collection. Ben, très souvent, c'est des pièces où il n'y a pas énormément de stock. Et le soir même, elles sont chez elles avec leur mec en train de préparer les commandes. Et parfois, elles mettent l'e-shop pendant une semaine off, ou en tout cas, il y a un bandeau où il est marqué pendant une semaine, les commandes ne pourront pas être envoyées parce qu'on n'est pas là. Donc ça, c'est une réalité qui est là et il faut bien s'en rendre compte. Donc ça, pour moi, c'est le point le plus négatif, même si c'est hyper chouette. Et moi, c'est la raison pour laquelle je me suis jamais lancée dans un business de produits physiques, bien que j'adore ça, c'est comme ça que j'ai démarré. Quand j'étais salariée, j'ai toujours bossé pour des e-shops et vraiment j'adore ça et même encore aujourd'hui. J'adore analyser les e-shops, le marketing, voir comment c'est conçu. Et voilà, c'est quelque chose qui m'amuserait beaucoup en termes de créa, justement. Mais il y a cette liberté géographique qui est assez compliquée pour moi. Et cette liberté au niveau du temps aussi, parce que forcément, quand un client commande quelque chose, il veut pas sa commande dans un mois. Ce n'est pas la peine de dire « c'est le week-end, je me repose ». Non, non, surtout quand on est comme ça, un petit business, il faut envoyer le plus rapidement possible la commande. Donc, au niveau des différentes notes, liberté géographique, on est à 2 sur 10. Et oui, on l'a vu, on est quasi obligé d'être enchaîné à son stock au début. Liberté au niveau du temps, 2 sur 10. Parce que à chaque fois qu'il y a des commandes, on va être obligé de bosser directement pour envoyer la commande. Je ne dis pas que ça prend 10 heures d'envoyer un colis, mais vous avez compris l'idée. On a pour moi, au niveau géographique et temporel, tout ce qui est produit physique quand on bosse seul au début. C'est hyper compliqué à gérer, ça demande énormément d'investissement au quotidien. Pour avoir moi une membre chez Selfmade qui a lancé sa marque de papeterie, c'est Judith, je lui fais un petit coucou au Monday, c'est génial ce qu'elle fait, vous pouvez aller voir. Je sais vraiment ce que ça demande, c'est toute la famille qui s'y met quand il y a des commandes, les agendas, etc. Donc vraiment, on est loin du côté, je sirote des cocktails à Bali pendant que je gère mon business sur internet, loin loin de là. Cependant, énorme liberté créative. Certes, il faut créer des produits que les gens voudront acheter. Il faut répondre aux besoins des clients, mais on est quand même sur du créatif. Je mets 7 sur 10. Et alors, en termes de rentabilité financière, j'ai mis une note plus haut que les autres business models qu'on a mis, à savoir le freelancing, le coaching, le consulting, parce qu'en fait, on n'a pas ce plafond de verre. Au bout d'un moment, vous allez pouvoir vous développer plus facilement et vous allez pouvoir gagner plus d'argent quand le truc va décoller. Donc, je mets 8 sur 10. On est cependant sur une moyenne qui est en dessous des 5 sur 10. On est à 4,75 sur 10, juste en dessous de la moyenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a au démarrage ce problème géographique et temps. Enfin, je dis ce problème, c'est peut-être pas un problème pour vous, mais c'est une réalité. Donc, en termes de créativité, on est sur un super chouette business, vraiment, on peut vraiment s'amuser. Par contre, il y a les désavantages qui vont avec. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toutes les personnes qui vous vantent le business model du dropshipping, c'est parce que justement, on n'a plus ces problèmes d'envoi de colis, vu que tout est fait par un prestataire externe en Chine. Et donc, forcément, on a beaucoup plus de liberté. On a beaucoup moins d'éthique, mais on a plus de liberté. Donc, voilà pour les produits physiques. Donc, voilà, qui tombent à la dernière place, avec ce 4,75 sur 10. On verra si d'autres business se placent en dessous ou pas. Alors, numéro 5, il en reste 3. Nous avons tout ce qui est programme et coaching de groupe. On est donc un petit peu sur la suite logique du coaching, du consulting, etc. Des choses qu'on va faire vraiment en tête-à-tête avec un client individuel, hein, qu'on va faire en one-to-one. Là, ben, au lieu d'avoir un client à 9h, un client à 10h, un client à 11h, on va mettre tout le monde à 10h et comme ça, on n'a qu'un seul rendez-vous sur la journée. Alors, clairement, très belle optimisation du temps, de toute façon. Ça permet d'avoir des journées un petit peu plus fluides en termes d'agenda. Ça permet d'avoir moins de rendez-vous et d'être constamment en call avec ses clients. Cependant, ben, on n'est pas encore pour moi sur une liberté qui est hyper, hyper optimale. Parce que, imaginons, si vous créez un programme en ligne avec, par exemple, quelque chose assez hybride avec des documents en ligne qu'on peut consulter et vous faites du coaching tous les lundis à 10h avec le groupe, par exemple, de 10h à midi, ben, encore une fois, vous ne pouvez pas aménager votre horaire du lundi comme vous le voulez. Vous êtes obligé de 10h à midi d'être présent parce que ça a été décidé 3 mois avant. Alors, si vous n'avez jamais fait ça de votre vie, vous allez peut-être vous dire « Non, mais là, t'abuses, c'est pas si compliqué de se tenir aux règles qu'on a établies. » Il faut savoir que ça demande quand même pas mal d'énergie, en fait, ces différents lives quand on n'est pas spécialement fait pour ça. Et donc, ça peut très vite amener pas mal de frustration, en fait, d'avoir constamment chaque semaine ces différents lives. Il y a des gens que ça dérange pas du tout. Il y a des gens qui pourraient être en direct toute la journée avec leurs clients et coacher toute la journée parce qu'en fait, ce sont des coachs dans l'âme. Mais les personnes qui vont vers ce type de business model en se disant que ça va être plus facile au niveau de la liberté, sachez que c'est absolument pas le cas. C'est pour ça qu'aller dire à un freelance « Crée ton programme de consulting et tu verras, tu seras beaucoup plus libre », c'est pas vrai du tout. Parce que le freelance, peut-être qu'il aime bien bosser dans son coin, qu'il aime bien travailler par exemple sur ses sites internet dans son coin et que ça lui va très bien. Et qu'au contraire, aller lui dire « Bah écoute, à partir de maintenant, tu vas plutôt coacher les gens sur la création de sites internet et tu vas être en direct tous les lundis à 10h dans ton programme de groupe », ça va peut-être pas du tout lui convenir. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Et moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, je me suis rendu compte à un moment où j'avais complètement changé mon business. J'avais énormément de lives à l'époque et ça me convenait pas du tout. Et je me souviens, quand j'avais des lives sur la journée, c'était parfois plusieurs par semaine, ça me coupait toute ma semaine, en fait. Ça me coupait toute ma productivité. Et surtout, ça me coupait vraiment encore cette liberté au niveau du temps dont j'ai besoin, parce qu'au final, on doit quand même être à certains moments, à un certain endroit, donc c'est-à-dire sur Zoom dans notre cas. Et donc, pour moi, on n'est pas si libre au niveau du temps. Donc, les différentes notes pour ce business model, tout ce qui est programme, coaching de groupe, etc. Liberté géographique, là, on revient à notre bon 10 sur 10. Encore une fois, c'est un métier que vous pouvez faire de partout dans le monde. Liberté au niveau du temps, ben, on est à 5 sur 10. Et ça va également, ben, toujours avec ce côté géographique, hein, c'est bien beau, mais si vous voulez gérer votre business d'Australie, ben, au bout d'un moment, vous devez quand même, au niveau du temps, ben, vous mettre sur le créneau horaire de l'Europe, si vos clients sont en Europe. Donc voilà, et puis surtout, ben, vous devez être là au moment où on vous demande d'être là. En termes de créativité, j'ai mis 7 sur 10. Je sais pas pourquoi j'ai mis 7 sur 10. J'aurais pu mettre 6. Bon, c'est pas grave, on va laisser 7 sur 10 parce que j'ai déjà calculé toutes les moyennes. En fait, oui, pourquoi j'ai mis 7 sur 10 ? Le fait d'avoir du coup moins de temps de coaching, consulting, etc. toute la journée, ça va nous permettre d'avoir plus de temps pour développer notre communication et avoir plus de temps pour faire des choses qui vont nous amuser. Par exemple, un coach qui est toute la journée en coaching one-to-one avec des clients, il n'a pas le temps de lancer une chaîne YouTube, un podcast, une newsletter, etc. Au bout d'un moment, il faut être honnête. Par contre, si vous avez plutôt un gros programme de groupe qui vous prend moins de temps dans la gestion hebdomadaire, ben vous avez du coup du temps pour développer d'autres choses. C'est pour ça que pour moi, ça vous amène plus de créativité si vous en avez besoin. Au niveau rentabilité financière, on est à 8 sur 10 parce que clairement, ben, vous allez pouvoir prendre plus de clients. Vous pouvez totalement vous dire, je lance un programme de groupe et je veux une cohorte de 10 personnes, mais vous pouvez totalement faire en sorte de complètement développer votre business et dire, ben en fait, je prends des cohortes de 30 personnes, de 40 personnes, ou je fais même plusieurs cohortes en même temps. Tout ça, c'est possible. On arrive toujours à un plafond de verre parce qu'au bout d'un moment, on peut pas gérer 10 000 clients tout seul, on est d'accord. Mais on peut quand même se développer au niveau financier assez bien. Donc, c'est pour ça que nous arrivons à une très jolie moyenne de 7,5 sur 10 en termes de liberté. Vraiment, la seule chose qui fait un petit peu chuter la moyenne, ben, c'est le fait qu'au bout d'un moment, vous êtes quand même obligé de, dans vos programmes de groupe, dans vos coachings de groupe, ben, vous êtes quand même obligé de donner les coachings au moment où vous avez prévu de les donner. Donc voilà, assez logique, hein, cela dit. Mais encore une fois, pour certaines personnes, ça peut aller à l'encontre de ce besoin de liberté. Alors, sixième catégorie, nous avons tout ce qui est création de contenu / influence. Fallait quand même parler de ce business model. Certes, moi, je n'ai jamais été créatrice de contenu à temps plein. En tout cas, ça n'a jamais été mon revenu principal. Ça m'est arrivé à l'époque d'avoir quelques collaborations avec des marques. Mais le fait de connaître quand même ce métier, d'avoir des connaissances dont c'est le métier, je connais quand même les points positifs et négatifs. C'est pour ça que je me suis permise de le mettre dans ce top 7, entre guillemets, des métiers du web qui pourraient nous rendre libres. Alors, pour moi, le désavantage vraiment de tout ce qui est influence, création de contenu, en fait, on n'en parle pas assez, mais ça revient à faire de la prestation de service pour les marques. Au final, c'est ça, hein. Vous avez une marque qui va vous contacter, qui va vous dire « Coucou Sarah, on adore ce que tu fais, on aimerait bien que tu fasses 3 posts Instagram en mettant en avant cette tenue, cette tenue, cette tenue. Voici le brief, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu ne peux pas faire. On voit nous 2 semaines avant la publication tes photos parce qu'on doit les valider. Il y a vraiment l'influence, c'est terminé, les collaborations où on peut faire ce qu'on veut et on poste ce qu'on veut sans faire valider par la marque. Maintenant, il y a vraiment des gros briefs. On est vraiment sur un pur échange de services. Et ça, je pense que les gens de l'extérieur ne se rendent pas compte que vraiment ce métier-là, au final, on n'est pas si libre que ça et on a énormément de comptes à rendre aux différentes marques, au final, aux clients avec qui l'influenceur va travailler. Alors certes, on va quand même avoir de la créativité quand on va faire son contenu pour soi. Quand vous regardez, par exemple, les filles sur Instagram qui sont créatrices de contenu à temps plein, toutes leurs publications ne sont pas des collaborations payantes, hein. Ça, les gens détestent. Donc, il va y avoir des posts, des collaborations avec des marques où là, il y a clairement un brief créatif qui est là et surtout, on doit rendre des comptes à la marque, après donner les statistiques, etc., etc. Mais à côté de ça, on peut s'amuser et faire ce qu'on veut. Donc, certes, il y a une très belle liberté au niveau de la créativité, mais pas pour tout, et certainement pas pour les publications qui, au final, vont faire gagner de l'argent. Donc ça, pour moi, c'est hyper, hyper, hyper important de s'en rendre compte. Alors, passons aux différentes notes. Vous allez voir, on est sur un business model qui, au final, est assez différent des autres. Liberté géographique, vous allez voir, j'ai mis 7 sur 10. Et là, vous allez certainement vous étonner et vous dire, mais comment ça se fait qu'un freelance, tu vas lui mettre 10 sur 10 et une influenceuse, tu vas lui mettre 7 sur 10 parce que les influenceuses, elles sont toujours en train de voyager partout dans le monde. Eh ben, oui, certainement, mais pour leur métier, pas pour leur plaisir. Et en général, les influenceuses, quand elles voyagent, c'est pour des collaborations et c'est très compliqué pour une influenceuse, par exemple, francophone, d'aller vivre ailleurs. On le voit, des influenceuses qui vont s'expatrier, elles doivent tout le temps revenir sur Paris pour bosser, pour avoir les rendez-vous avec les marques, pour ne serait-ce qu'obtenir le matériel, les vêtements, les accessoires qu'elles doivent mettre en avant dans des futurs posts. Moi, par exemple, il y a une influenceuse que j'adore, chaque année, elle bouge quelques semaines à Sydney avec son compagnon et elle le dit, c'est super compliqué à distance de gérer ce métier parce qu'au final, on a besoin de la proximité avec les clients avec qui on bosse. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 7 sur 10. Certes, c'est un métier qui peut amener à beaucoup voyager, à vivre des expériences de dingue, on est d'accord. Mais on n'a pas tellement cette liberté géographique où on pourrait se dire, allez, ciao les gars, je me barre 5 mois à Bali et ça ne va rien changer au niveau du business. C'est complètement faux. Alors, au niveau de la liberté, au niveau du temps, j'ai mis 5 sur 10. On est sur la même chose au final que la prestation de service. Pourquoi ? Ben parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même beaucoup de la prestation de service. Parce que pour gagner sa vie, à chaque nouveau contrat, il va falloir créer quelque chose de nouveau. On peut pas se dire, j'arrête de bosser pendant 3 mois et espérer que de l'argent tombe. Non, on peut faire une pause pendant 3 mois, mais pendant 3 mois, ben, vu qu'on va rien délivrer, ben, il n'y a pas de contrats qui vont être payés. Donc ça, c'est pour moi aussi important de s'en rendre compte, comme pour un freelance. Au niveau de la créativité, j'ai mis 6 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir ce mix entre les marques qui imposent leur truc, entre guillemets, et ensuite les choses qu'on fait pour s'amuser. Donc on a un mix des deux. Globalement, on est quand même sur un métier créatif. Mais je sais, pour avoir déjà entendu à quel point les marques peuvent être parfois ennuyeuses, pointilleuse, on va plutôt dire ça. Beaucoup d'allers-retours, parfois il faut refaire certaines choses. Vraiment, il faut rendre les comptes à la marque qui nous paye pour créer le contenu. Donc 6 sur 10. Et en termes de financier, j'ai mis 8 sur 10. C'est vrai que j'aurais pu mettre un petit peu plus. Parce qu'au final, les revenus de l'influenceuse vont se développer avec son nombre de followers. Donc en fait, est-ce que je change ma note ? Je vais changer ma note. Je trouve que j'ai été très sévère au niveau de la liberté financière. Non, je me suis plantée. Je mets 10 sur 10 et donc je vais recalculer ma moyenne. Et donc avec mon 10 sur 10 en termes de finances, on arrive à une moyenne de 7 sur 10. Donc quand même un métier du web qui permet d'être très très libre, d'avoir une très belle liberté, tout ce qui est influence, création de contenu. Bon, bien sûr, ça se fait pas en 2 secondes, hein. Il faut savoir créer une communauté, mais une fois, si on a ce talent-là, c'est un métier qui permet d'être très libre. Et on arrive à notre dernier business model et je pense que vous savez de quoi je vais vous parler. Ben forcément, je vais vous parler de mon business model, je vais vous parler de mon métier. Je pense que vous vous en doutez, on va arriver à la note la plus positive en termes de liberté, étant donné que pour moi, c'est le métier, c'est le business model qui permet d'allier la plus grande liberté dans tous les domaines. Et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi. Ce business model, si vous démarquez, étant la vente de cours en ligne et de produits digitaux. Et pour moi, ce business model n'a que des points positifs en termes de liberté. Honnêtement, je me demande encore chaque jour comment ça se fait que j'ai la chance, au final, d'avoir trouvé ce truc qui me convient aussi bien, qui convient aussi bien à mon besoin de liberté. Vraiment, j'aime trop ce que je fais, je pense que vous le savez. Et je me vois vraiment faire ça encore pendant des années et des années et des années. Et je vais continuer de dire haut et fort que ce business model est génial parce qu'il l'est. Alors, on va reprendre nos 4 différents points. Je vais vous donner la note et la petite explication en même temps. Alors, liberté géographique, bon là bien sûr on est sur un très beau 10 sur 10 parce qu'encore une fois c'est un métier qu'on peut faire de n'importe où dans le monde, comme pas mal des métiers qu'on a cités, pas mal des autres business models. Je dis toujours métier business model, c'est dans ce cas-ci on est plus ou moins sur la même chose, même si à la base ce n'est pas la même chose, mais bon bref c'est pas grave. Donc un beau 10 sur 10. Alors au niveau de la liberté de créativité, j'ai mis 8 sur 10. Pour moi, c'est vraiment, et c'est ça que j'adore vraiment dans ce métier, pour moi, autant la liberté géographique, c'est pas tellement ce que je recherche le plus parce que je suis bien chez moi, je suis assez casanière, je pourrais voyager beaucoup, beaucoup plus, je ne le fais pas beaucoup. Donc voilà, moi, je suis très bien chez moi, mais par contre, j'ai besoin de cette liberté de créativité. Et il n'y a que dans le business de la création de cours en ligne et de produits digitaux que je l'ai trouvé. Quand j'étais freelance, j'adorais avoir cet aménagement des horaires. Donc par exemple, c'est tout bête, mais si un jour d'été il faisait magnifique, que je décidais d'aller passer la journée au bord d'une piscine et de bosser la nuit pour rattraper, je pouvais le faire. Et ça, c'est toujours quelque chose que je peux faire avec mes cours en ligne et mes produits digitaux. Mais j'avais pas la créativité que je voulais parce qu'au final, je bossais pour mes clients, en fait. Je bossais pour leur business. Et là, c'est moi, la boss. Je décide de tout. Par exemple, qu'est-ce que j'ai décidé ces dernières semaines ? J'ai décidé que je voulais aller sur le marché anglophone. On y va. J'ai décidé que je voulais relancer Je vis de ma passion. On y va. J'ai décidé que je voulais restructurer toutes mes offres. On y va. J'ai décidé... En fait, j'ai décidé plein de choses. Et on a vraiment cette créativité de pouvoir faire ce qu'on veut. Cette créativité de choisir également comment on va communiquer sur nos produits. On a cette liberté d'abord de choisir ce qu'on va vendre. Cette liberté de choisir comment on va communiquer. Par exemple, voilà, j'ai décidé le podcast de bien relancer cette année avec un nouveau nom, un nouveau branding, etc. Mais tout ça, c'est parce qu'en fait, j'ai ce besoin de créativité, de re-réfléchir les choses et je ne pourrais pas le faire si j'étais freelance pour quelqu'un d'autre, pour un autre business. Je ne pourrais pas le faire dans tous les autres métiers qu'on a cités. Pour moi, c'est vraiment un jeu. Et je sais que parfois, certaines personnes me disent « Mais t'en as pas marre de souvent reconstruire ce qui a déjà été construit ?» Mais j'adore ça. C'est la créativité derrière, moi, qui m'amuse. Donc vraiment, liberté, créativité, 8 sur 10 à ce niveau-là. Pourquoi pas 10 ? Mais parce qu'en fait, un petit peu comme je disais avec les e-shops de produits physiques, au bout d'un moment, on peut s'amuser et mettre en ligne des produits complètement... hurluberlu. En même temps, il faut créer des choses et proposer des choses que le public a envie d'acheter. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très, très, très précis par rapport à ce que je vis en ce moment. Moi, vous le savez, je suis passionnée par mon business model. J'adore expliquer la création de cours en ligne de produits digitaux et surtout comment les vendre de manière automatique tous les jours. Parce que pour moi, c'est la vie. Bizarrement, et on va en parler à la fin, c'est pas la thématique qui intéresse le plus en ce moment. Ce que me demande le public de manière générale et mon audience, c'est comment poster sur Instagram, comment faire des Reels. Et c'est pour ça qu'en fait, je reviens de plus en plus sur cette thématique et c'est pour ça que j'en ai aussi, par exemple, fait pas mal d'épisodes de podcast parce que c'est ce qu'on me demande. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau créatif, on n'est pas à 10 sur 10 parce que certes, il y a beaucoup de créativité, mais il faut quand même répondre aux besoins du public. Et au bout d'un moment, on peut pas décider « je vais créer un produit digital là-dessus sans assurer que derrière, il va y avoir des ventes. Sauf si vous avez pas besoin de faire des ventes parce que vous avez pas besoin de gagner votre vie pour plein de raisons différentes. Mais globalement, si vous voulez avoir derrière une certaine rentabilité, il faut quand même s'ajuster aux besoins du public et à ce que le marché veut acheter à ce moment-là. Donc voilà, créativité, oui, mais pas à son maximum. 8 sur 10, mais c'est déjà très très bien. Liberté au niveau du temps. Alors, vous avez vu, j'ai toujours été très, très sévère, entre guillemets, au niveau de ce point-là, parce qu'effectivement, on était toujours sur des business où si on s'arrête de bosser, concrètement, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, on n'est pas tellement libre au niveau du temps. On peut le faire de partout dans le monde, mais on est obligé de le faire. Pour moi, c'est le seul business où vous pouvez vous permettre de vous barrer pendant 3 mois sur une île sans connexion internet et vous allez encore avoir de l'argent qui rentre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de vendre votre temps. Vous ne devez, une fois qu'un cours en ligne est créé, il est en ligne, les gens peuvent aller l'acheter quand ils veulent. Donc ça, c'est l'avantage. Vous n'avez pas besoin de reproduire. À chaque fois que quelqu'un achète, vous n'avez pas besoin de reproduire le travail. Vous n'avez pas besoin de « rebosser » entre guillemets. Moi, par exemple, ce week-end, j'ai mis en ligne pour la waiting list, pour les personnes inscrites sur la waiting list, la formation Reels Momentum. Samedi soir, j'avais encore plein de petits trucs à finir, mettre en ligne l'espace Kajabi, etc. N'empêche, ça a été fait une fois. Maintenant, que je fasse 100 ventes, 1000 ventes, 10 000 ventes de ce cours, ça ne va plus me demander, entre guillemets, de temps de travail, entre guillemets. Il y a toujours un petit peu le support client. Mais globalement, une fois que le travail est fait, on peut le vendre à autant de gens qu'on veut. Et surtout, on peut vraiment se permettre, une fois qu'on a un système comme ça qui nous amène des nouveaux clients et qu'on a un système qui travaille pour nous, une fois qu'on a créé du contenu sur le web qui vit, entre guillemets, pour nous, mais c'est ça qui va faire qu'on va avoir des ventes qui vont tomber même quand on n'est pas en train de bosser. Et c'est ça qui permet d'avoir cette vraie liberté de temps. Parce qu'on va vraiment pouvoir se dire, par exemple, à certains moments, « Ok, si je pars 2 semaines en vacances ou je pars 3 semaines en voyage, faire un road trip ou je ne sais quoi, on va avoir le business qui continue de tourner. » Et inutile de dire qu'en termes de temps, quand on est sur un type de business de cours en ligne comme moi où on est plutôt sur des formats autonomes, où on n'a pas des lives toutes les semaines, etc., mais clairement, au niveau du temps, on est 100% libre aussi. Moi, par exemple, il y a des moments où j'ai envie de cravacher, je vais bosser 10 heures par jour et je vais être à fond. Il y a des moments où je vais décider de pas bosser du tout parce que je suis crevée, zéro créativité, donc il vaut mieux que j'aille m'aérer l'esprit. Je n'ai pas besoin de regarder mon agenda parce qu'en fait, je sais que sur mon agenda, il n'y a rien. J'ai pour l'instant plus qu'un live par mois. Voilà, c'est la seule chose que j'ai sur mon agenda. Et moi, ça me permet d'avoir vraiment une liberté en termes de... En fait, cette liberté de temps me permet d'être hyper productive parce que ça me permet de bosser au moment où je suis le plus efficace. Et ça, pour moi, c'est hyper, hyper important. Ça me permet d'être off quand j'ai besoin d'être off. Ça me permet d'être hyper efficace les moments où j'ai besoin d'être hyper efficace. Donc, pour moi, 10 sur 10 au niveau du temps. Et c'est pour moi, encore une fois, le seul business model où j'ai trouvé cette liberté au niveau du temps qui me manquait énormément dans les autres types de business que j'ai pu tester. Et le fait, le lundi matin, de pouvoir me lever et me dire « Ok, je bosse sur ce que j'ai envie de bosser et je bosse si j'ai envie de bosser », important, en général, j'ai envie de bosser parce que j'aime bien ce que je fais, mais pour moi, ça n'a pas de prix. Et on va terminer justement, j'ai dit le mot prix, on va parler d'argent. Ben, pour moi, tout ce qui est liberté financière, rentabilité financière, on est sur 10 sur 10. On a un potentiel qui est énorme. On peut au final scaler jusqu'à l'infini. Au final, qu'est-ce qui va faire qu'on va gagner 1000 euros par mois, 5000, 10000, 100000? C'est la taille de notre audience qui va grandir au fur et à mesure. Donc voilà, pour moi, c'est le business model idéal quand on cherche à être libre. Alors il y a quand même un point, alors qui est pas un point négatif, mais qui est important à dire. Pour que la machine fonctionne, il va quand même falloir créer du contenu un petit peu constamment. Si vous n'aimez pas créer du contenu, n'allez pas vers ce business model-là. Vraiment, il y a quelques semaines, j'ai discuté avec une copine qui est graphiste et qui voulait se lancer dans les cours en ligne et quand elle a voulu commencer, ça a un petit peu bloqué et elle disait mais en fait je me rends compte que pour créer des cours en ligne, il faut avoir une âme de créateur de contenu et c'est la réalité et au final on le voit. Je trouve que moi, le métier de créateur de cours en ligne et produits digitaux est beaucoup plus proche du métier de créateur de contenu slash influenceur qu'est en réalité le métier de coach à la base. Souvent, on a tendance à croire que cours en ligne et coaching et consulting, c'est la même chose. Pas du tout. La création de cours en ligne, en fait, c'est faire de la création de contenu, mais au lieu d'être rémunéré en faisant des deals avec des marques, on va être rémunéré en vendant nos propres cours à notre audience. Mais il faut avoir une audience et au plus, on veut de revenus. Au plus, il faut développer notre audience. Et ça fonctionne par la création de contenu. On peut bien sûr compléter avec de la pub, mais c'est globalement la création de contenu qui va être là. Bon, si vous aimez créer du contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moyenne de ce business model, 9,5 sur 10. Alors, on va revoir notre petit classement du coup. On va voir de la dernière à la première place quel business nous permet d'être le plus libre, selon moi, quand on veut être solopreneur sur le web. Alors, c'est parti pour le classement. En dernière place, à la septième place, tout ce qui est e-commerce slash produits physiques avec un 4,75 sur 10. Ben, on l'a vu hein, quand on démarre et les premiers mois, les premières années, très souvent, quand on est soi-même à la logistique. On est un petit peu enchaîné à ses colis, à son stock. Donc, peu de liberté, mais quand même un très beau métier. Alors, à égalité, à la sixième et cinquième position, ben, ils avaient les mêmes notes, hein, 5,5 sur 10. C'est tout ce qui est coaching et consulting qu'on va faire en one-to-one. Donc, certes, on est indépendant, on est à notre compte, mais on se retrouve quand même très souvent à passer nos journées sur Zoom, donc un petit peu moins libre. 5,5 sur 10. Pour ces deux métiers. À la quatrième position, nous avons la prestation de service. Et là, on arrive à des très belles notes, étant donné que nous sommes à 6,75 sur 10 pour la prestation de service, qui est effectivement un type de business qui permet d'être assez libre. Il y a juste, voilà, ce système, on échange son temps contre de l'argent, et quand on s'arrête, il n'y a pas d'argent qui rentre, faut s'en rendre compte. Mais on a quand même une très belle liberté, surtout au niveau des horaires, je trouve. Enfin, au niveau de la manière dont on veut gérer ses horaires. Troisième place, nous avons l'influence et la création de contenu avec un très beau 7 sur 10, métier qui permet d'avoir pas mal de liberté, mais cependant la majorité du business model, ça reste de la prestation de service pour des marques, c'est comme ça qu'on gagne sa vie principalement. En deuxième, tout ce qui est programme et coaching de groupe avec un 7,5 sur 10. Et en premier, tout ce qui est cours en ligne et produits digitaux avec 9,5 sur 10. Voilà donc pour mon top 7 des métiers, des business models qui permettent d'être le plus libre sur le web. J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'ai trop hâte d'avoir votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes notes? Vraiment, je vous invite à venir en parler sur le post Instagram qui annonce cet épisode sur le compte Faire le Web. N'hésitez pas dans les commentaires directement à venir commenter. Je vous mets le lien dans la description du podcast, du post. Comme ça, vous pourrez le retrouver facilement et vous pourrez venir me donner votre avis. J'adore quand vous venez donner votre avis en message privé. C'est toujours un plaisir d'échanger. Mais ici, j'aimerais bien que tout le monde puisse voir les commentaires pour qu'on puisse tous interagir. Donc, c'est pour ça que je vous rassemble tous sur un post Instagram spécifique pour qu'on puisse échanger entre nous, parce que je pense que ça reste quand même au final très très subjectif, cette notion de liberté, et des choses pour moi où je me sens pas du tout libre, il y a des personnes, ça va leur poser aucun problème, et certainement qu'il y a d'autres choses qui vont faire que pour moi c'est de la liberté, et pour d'autres c'est pas de la liberté. Mais donc voilà, moi je me suis beaucoup amusée à préparer cet épisode, à préparer mes notes, à préparer mon classement, et je vais terminer avec une question par contre, qui est vraiment une question hyper ouverte. Vous êtes très souvent à me dire, Valentine, je veux être libre, t'as l'air d'avoir le business parfait, t'es 100% libre. Je me souviens justement, la semaine dernière, je pense que j'avais expliqué qu'au niveau planning, j'avais quasi rien et que je pouvais vraiment être hyper focus pendant un mois pour bosser sur mes nouvelles offres et tout. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est le rêve, c'est parfait, tu peux totalement aménager tout ce que tu veux comme tu veux. Et quand je vous parle de cours en ligne et de produits digitaux, vous me dites « Ah non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie ». Et je suis vraiment très curieuse de savoir pourquoi vous n'avez pas plus envie de vous y mettre. Est-ce que vous avez l'impression que ça ne va pas fonctionner pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que c'est trop compliqué? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a déjà trop de monde sur le marché alors qu'il y a quasi personne en réalité? Bref, je suis hyper curieuse. Donc, si cet épisode vous a parlé, si vous vous rendez compte que vous avez envie de tester ce business model parce qu'effectivement, vous avez ce besoin de liberté, dites-le moi, venez me le dire en MP, que ce soit sur mon compte ou sur le compte de Faire le Web. Venez vraiment m'envoyer un petit message. Il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment une question ouverte. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis parce que ça m'intéresse en fait. Parce que vraiment, je me demande, je me rends compte qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent se lancer sur ce business model et je trouve ça assez dommage. Donc voilà, je suis très curieuse d'avoir votre avis. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Vraiment, venez donner votre avis sur les notes, venez donner votre avis dans les commentaires, sur le post de cet épisode, sur le compte Instagram de Faire le Web. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et j'ai trop hâte de le sortir. Il répondra à la question « Faut-il encore un site web en 2024 ?» Ah ah, très beau débat. Eh bien écoutez, c'est la semaine prochaine. Si vous ne voulez pas manquer cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme favorite et n'hésitez pas à laisser un petit avis au passage. Ça fait toujours du bien aussi. Merci beaucoup, salut !